Ce matin, j'étais émerveillé de voir ce bouquet en arrivant. Et la question que je me posais en étant assis, est-ce que c'était des vrais ou du synthétique? C'est pour ça que je viens de toucher. Je ne sais pas comment vous le trouvez, ce bouquet, mais je trouve que c'est merveilleux ce que Dieu fait. Et sachez quand même que vous ressemblez à ce bouquet. Chacun avec une couleur spéciale, plus ou moins grande, c'est pas important. La question, c'est que vous êtes dans le bouquet. Et moi, je suis heureux de voir quand l'Église ressemble à ça. Ou à ça. C'est plus petit. C'est pas merveilleux. Voilà. C'est pas le sujet de ma prédication. Voilà. Ce matin, à travers tout ce que j'ai entendu, à travers ces chants, et à travers ce qu'a pu dire Raymond, je dis Amen. Je dis Amen pourquoi? Parce que ce qui a été dit, ce qui a été chanté, c'est la parole de Dieu. Dimanche dernier, déjà, Raymond, encore lui, mais c'est bien, il disait qu'il fallait lire la parole. Il fallait plonger les regards dans la parole. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors ce matin, ce que je vais essayer avec les moyens que Dieu me donne et en étant conduit par son esprit, je voudrais vous parler de quelque chose de très fort. Vous allez voir, c'est un message dans une journée qui paraît ordinaire et qui devient extraordinaire quand Dieu la dirige. On livre le passage que je vous propose, c'est dans le livre des Actes. Alors, pour ceux qui prennent des notes, c'est le livre des Actes, chapitre 3. Et à partir du premier verset. Alors, voilà ce qui est dit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors je ne sais pas si ça vous touche quelque chose dans votre esprit, dans votre âme. Ça a l'air d'être une parole forte. Ça a l'air d'être un message fort. Hein? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, je ne sais pas si cette formulation vous surprend, mais moi, ça a été un besoin de rechercher. Rechercher pourquoi Pierre va dire ça. Je n'ai ni or ni argent. Pourquoi exprimer une telle parole? Et là, pour si vous voulez découvrir, et je vous le conseille, il faut parcourir les évangiles. Et là, les évangiles vont nous relater comment le Seigneur Jésus, dans certaines circonstances, a fait des recommandations à ses disciples. Dans Matthieu, au chapitre 10, et à partir du verset 7, ça résonne, non? Dans Matthieu, chapitre 10, verset 7, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, etc., etc. Une autre fois, alors que Jésus et Pierre arrivent à Capernaum, on réclame à Pierre les taxes d'entrée en ville. Le péage. Et ils diront, ton maître, il ne paie pas, lui? Jésus dit à Pierre, normalement, qui c'est qui paye les impôts? Est-ce les fils du roi ou les étrangers? Afin de ne pas scandaliser, tu vas à la mer, tu jettes l'hameçon, là, je parle aux pêcheurs, là. Tu jettes l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Tu le prends et tu le donnes pour moi et toi. Vous voyez, l'enseignement de Jésus envers ses disciples au sujet d'argent est révélateur que la grâce de Dieu ne peut pas s'acheter. Et pourtant, on sait que un des 12 disciples, Judas l'Iscariote, un jour, il va aller vers les principaux sacrificateurs et il va leur dire « Qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous le livre ?» C'est une tragédie pour cet homme. Parce qu'ils vont bien sûr lui proposer de lui donner 30 cycles d'argent. Et à partir de ce moment-là, il va chercher une occasion favorable pour livrer Jésus. Beaucoup plus tard, bien après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, Pierre dira dans son première épître ceci, et j'aime beaucoup ce passage, « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » 1 Pierre 1, versets 18 à 20. On sait aussi que un jour, dans le livre des Actes, on trouve dans une ville de Samarie, Pierre et Jean qui imposent les mains et les créatures reçoivent le Saint-Esprit. Mais au milieu de ces gens, il y a un homme, Simon le magicien. Et quand il voit cela, ce fameux Simon le magicien, il propose de l'argent afin que lui aussi puisse imposer les mains et que ceux à qui il imposera les mains puissent recevoir le Saint-Esprit. Pierre va lui répondre « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achetait à prix d'argent. » Alors, je pense que on comprend mieux cette parole de Pierre qui adresse à cet homme, et revenons à lui, « Je n'ai ni or ni argent. » Tout cela nous permet de comprendre que le salut, la guérison et la vie éternelle ne peut en aucun cas s'acheter. C'est un don de Dieu pour tous. Dans Acte 4, qu'on n'a pas lu, bien sûr, à partir du verset 22, il est précisé que cet homme était âgé de plus de 40 ans, boiteux depuis plus de 40 ans. On peut dire que cet homme sûrement était boiteux depuis sa naissance. Mais le problème majeur concernant cet homme, c'est sa position géographique. Tous les jours, il nous a dit, il était transporté devant la porte du temple appelée la Belle. Et là, il demande de l'aumône. Tous les jours, tous les jours. Alors j'ai dit que sa position géographique n'était pas bonne. Pourquoi ? Parce qu'il tournait le dos au temple, comme s'il tournait le dos à Dieu. Il s'attend à recevoir des hommes un bien temporel, malgré que sa condamnation est éternelle, car il est pécheur privé de la gloire de Dieu. D'ailleurs, nous sommes tous dans la même situation si nous n'avons pas fait la paix avec le Seigneur. La parole précise que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. La position de cet homme n'est pas bonne. Et heureusement pour lui, Pierre et Jean viennent au temple pour la prière, mais aussi pour la délivrance. Jésus a fait plusieurs miracles dans le temple ou dans la synagogue. Si vous parcourez les évangiles, vous allez voir les délivrances qui ont été faites par le Seigneur. C'est Matthieu d'ailleurs qui imprécise une fois, en disant que des aveugles et boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Mais là, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il a faites. Et même les enfants criaient dans le temple « Hosanna au fils de David », ce qui signifie « Sauve, je te prie ». Matthieu 21. Le verset 4 est intéressant parce que Pierre et Jean, tous les deux, ensemble, vont fixer les yeux sur lui. Et ils vont dire, regarde-nous. C'est étonnant, hein? Je ne sais pas si ça vous paraît pas étonnant, dites-le, hein? Moi, je trouve que c'est étonnant. Fixer les yeux sur quelqu'un et dire, maintenant, regarde-nous. Là encore, je crois que les disciples, Pierre et Jean, ont appris beaucoup au contact du Seigneur Jésus. Pendant 3 ans, 3 ans et demi, ils ont vu que le regard de Jésus, sa portée, avait toujours une incidence dans la vie de ceux qu'il rencontrait. Et peut-être que Pierre, lui aussi, il se rappelle l'incidence qu'a eu ce regard de Jésus sur sa propre vie. Rappelez-vous, quand il a renié son maître auprès d'un feu, le maître pourtant l'avait prévenu qu'il le renierait. Il est dit que quand le Seigneur est sorti, il s'est retourné et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur. On pourrait penser que ce regard était accusateur. Non. Si vous pensez ça, vous trompez. Non, pas du tout. Le regard de Jésus est rempli de compassion pour son disciple. Et c'est pour ça que Pierre pleura amèrement, car il avait perçu dans ce regard le pardon de son maître. Et on a besoin du pardon de ce maître. On pourrait penser que dans la lecture de ces quelques versets du livre des Actes, ce boiteux n'a rien fait de particulier. Et pourtant, il y a 3 attitudes de cet homme qui sont importantes. Premièrement, peut-être, son attitude, son attention, ce jour-là, a été différente des autres jours. Il a compris qu'une chose importante se déroulait devant lui à travers ces 2 hommes. Il est impressionné parce que ces 2 hommes ne ressemblent pas à ceux qu'il a l'habitude de voir. Il écoute attentivement les 2 apôtres. C'est vrai que de nos jours, c'est difficile d'écouter. Nous sommes submergés de tellement d'informations à travers la télévision, la radio, à travers tout ce qu'on peut entendre à gauche, à droite. D'ailleurs, il en est de même avec la parole de Dieu. On a du mal à écouter la parole de Dieu. On a du mal à saisir la parole de Dieu. Pourtant, à travers cette parole, qu'elle soit bien dite par un prédicateur ou qu'elle ne soit pas bien dite, il y a quand même toujours le message pour chacune de nos vies. Il s'attendait, cet homme, à recevoir et il le croyait fermement. La parole encore nous dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et c'est une démonstration de ce que l'on ne verra pas. C'est ça la foi. Si votre foi elle est exprimée que dans ce que vous voyez, vous ne verrez jamais ce que Dieu a pour vous. La foi, c'est la démonstration des choses que l'on espère mais que l'on ne voit pas. Et quand Dieu dit une chose, croyez fermement que lui a la capacité de vous la donner. C'est Paul qui répond un peu à cette interrogation sur la foi. Paul dit ceci, la foi, écoutez bien, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Je répète, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La troisième chose, c'est que le boiteux a tendu la main vers Pierre et Jean. Mais vous allez me dire, bon, il a tendu comme quelqu'un qui fait l'aumône. Relisez le passage. Vous allez voir que non. Il a tendu la main. Et c'est ça. Quand on tend la main vers Dieu, Dieu la saisit. Dieu ne lui a pas demandé l'impossible. Non, le Seigneur ne demande pas non plus l'impossible. Jamais. La déclaration de Pierre, elle est simple, sans ambiguïté. Elle est avec des mots que tout le monde peut comprendre. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous allez me dire, mais c'est un acte de puissance. Vous vous rendez compte un peu? Un homme boiteux depuis plus de 40 ans, vous lui dites, lève-toi et marche. Ah oui, c'est la foi qui soulève et qui envoie dans la mer la montagne. Il n'y a pas 50 fois, il n'y en a qu'une fois. Et celle-là, si vous voulez la prendre, la saisir, elle va vous amener à vivre pleinement ce que Dieu nous demande. Il est dit au verset 7 qu'au même instant, en l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et j'aime beaucoup ce qui est dit après, parce qu'il est dit qu'il entra dans le temple. Ah, tiens, jusqu'à maintenant, il tournait le dos au temple. Il tournait le dos au temple. Là, il entre dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous avez sauté tout à l'heure. Vous avez marché tout à l'heure à travers le champ. Hein? Mais lui, c'était plus qu'un champ. C'était une délivrance. Oui, son regard a changé de direction. Jusqu'à ce jour, il avait tourné le regard vers les biens temporels qu'il pouvait recevoir à travers sa mendicité. Mais maintenant, son regard se porte vers l'avenir. Et l'avenir, c'était le Seigneur. Voyez-vous, si on n'a resté que dans ces 6 versets, on dirait, bon, c'est merveilleux, le Seigneur a guéri. Et c'est vrai, le Seigneur guérit. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que le Seigneur guérit encore aujourd'hui? Un petit oui, possible. Hein? Bien sûr que Dieu guérit aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que vous croyez qu'il peut guérir ce matin? C'est encore plus bas que tout à l'heure. Alors là, il y a un problème. Hein? Ne soyez pas timide. Hein? Je sais bien que peut-être vous n'avez pas l'habitude qu'on vous interpelle comme ça un dimanche matin. Vous êtes bien assis, hein, à écouter. Ah, c'était bien, oui, ou c'était pas bien, peut-être. Mais bon, c'est un dimanche de plus. C'est une prédication de plus. Non. Dieu, quand il parle, à travers la bouche d'un prédicateur, quel qu'il soit, peu importe, il parle en son nom. Et c'est ça qui est important. Le message ne fait pas que passer. Il doit s'imprimer. Croyez-moi, cet homme a suivi Jésus. Et si vous lisez la suite, c'est ça qui est important. Non seulement il a été délivré, mais il a suivi Pierre et Jean. Il a suivi Pierre et Jean dans le temple. Il a plus que suivi dans le temple, il est sorti avec eux. Et si vous lisez la suite, les gens qui connaissaient ce boiteux ont été fortement étonnés. Vous lirez la suite, c'est important. Et la suite, ils ont été fortement étonnés. Pierre a prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché? Mais il a prêché le message, le seul message qu'on peut entendre encore aujourd'hui, c'est celui que Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Jésus est vivant, Jésus intervient encore aujourd'hui. Est-ce que nous le voulons? Ah, là c'est la question. Sachez que là, si vous lisez la suite, vous trouverez ça dans Actes 4, verset 4, il est dit que ce jour-là, 5000 hommes, oui, 5000 hommes, combien ici se sont repentis suite à une prédication? Je pose pas la question. Bon, passons. C'est ça, le message. Le message, il est pour vous, comme il est pour moi d'ailleurs. Et si le message n'amène pas dans un cœur la délivrance, eh bien, il y a un problème. Vous allez me dire, peut-être, là, c'est plus le message, je laisse ça. Vous allez me dire, mais je ne suis pas boiteux. Non, peut-être pas. Mais ta vie, elle est comment? Elle n'est pas boiteuse? Elle n'est pas boiteuse, ta vie? Tu marches selon les principes du Seigneur? Tu suis ses commandements? Tu vis jour après jour en comptant que sur lui? Si ce n'est pas le cas, crois-moi, elle est boiteuse. Et ce que Dieu veut, c'est que tu es boiteux, tu es boiteuse, mais Dieu veut te délivrer. Mais veux-tu de cette délivrance? Et c'est là toute la question. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où justement, on enferme tout ce qui concerne Dieu, on le met comme un paquet dans un sac, et puis on le laisse là. Mais si on veut vraiment être délivré, comme cet homme a été délivré, et il faut venir à lui tel qu'on est. J'aurais presque envie de poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie de se dire, oui, c'est vrai, ma vie a été comme ça. Je connais le Seigneur, mais bon, je n'ai jamais vraiment mis en pratique ce que j'ai entendu. Je viens dans l'église depuis des mois, des années, mais ma vie a toujours été faite cahin-cahin, assis entre deux chaises, parce que ma vie a été comme ça. Et j'y suis pour rien, c'est comme ça, c'est ma vie. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous délivrer. Il veut faire de nous des enfants de Dieu. Et si vous n'êtes pas dans le vrai sens du terme enfant de Dieu, ce matin, vous pouvez choisir. Alors j'aurais presque envie de poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie? Si c'est comme les oui tout à l'heure, il n'y aura pas beaucoup. On peut lever la main, dire moi j'ai envie que quelque chose se passe dans ma vie, j'ai envie que ma vie a été quand même une vie faite tellement de choses désagréables, parce que les circonstances, les événements m'ont amené à toujours me renfermer. Mais Dieu veut délivrer. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Ne me regarde pas moi je ne suis rien. Si c'est sur moi que vous comptez, alors là, je préfère vous dire, là, vous trompez complètement. Moi, je ne peux rien faire. Par contre, si vous voulez aller venir au Seigneur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est la parole qui le dit, hein, moi, je ne fais que répéter, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous appelle aujourd'hui à changer totalement votre système qui a été sous l'emprise de ce monde. Vous pouvez aujourd'hui être totalement délivré, comme ce boiteux a été totalement... Vous allez me dire, mais ce boiteux, pourtant, pendant 40 ans, le Seigneur aurait pu, il l'a peut-être vu, le Seigneur. Hein? On pourrait dire ça. Il est venu au temple, le Seigneur. Il a fait des délivrances dans ce temple. Il n'a jamais vu ce boiteux? Je ne sais pas, peut-être pas. Peut-être que oui. Mais le temps de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, et moi je peux parler pour moi personnellement, quand ça a été le temps de Dieu pour moi, il est venu me chercher dans ma chambre. Oui, dans ma chambre, il est venu me chercher. Et vous, ils ne peuvent pas venir vous chercher dans l'église? Ce n'est pas parce qu'on est dans un bâtiment qu'il n'y a plus rien. Vous êtes assuré de l'impunité, vous êtes assuré qu'il n'y a rien qui va se passer. Bon, je ne veux pas en dire plus, mais si Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Demain ne nous appartient pas. On en reste là. Pourtant, je sais qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'être délivrées. Oui, oui, je précise, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être délivrées. Je le sais. Mais vous savez, le quand dira-t-on ? Ah ! Le quand dira-t-on ? Ah, mais vous savez, moi, je suis quelqu'un de bien. Bon, on va rester là. Merci Seigneur parce que c'est toi qui confonds les cœurs, c'est toi qui confonds les âmes, Seigneur. Et je te prie particulièrement pour tous ces bien-aimés qui sont là ce matin. Tu connais chacune de ces vies, Seigneur. Tu connais ceux qui marchent avec toi d'une manière digne. Tu connais ceux qui ont besoin de ton secours, de ta grâce. Seigneur, tu peux manifester dans ces cœurs le désir de te rencontrer, de marcher avec toi, Seigneur. Merci parce que nous savons que ta grâce n'est pas arrivée à son terme. Aujourd'hui encore, elle est possible. Je te loue et te rends gloire, Seigneur, pour ce que tu as fait déjà dans plusieurs vies et ce que tu feras encore demain. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.
Alors nous avons eu hier une journée magnifique. On a partagé avec Sandy et Elodie leur demande de bénédiction. Je vais laisser à Jean-Paul nous faire un petit retour de Sandy et Elodie.
Ça sera pas court, tu peux pas peine partir. Hein. Non, ça sera pas long. Bon, on n'est pas tous là, mais Sandy et Elodie, je les ai vus ce matin. Ils sont pas venus parce que le papa repartait ce matin, donc ils étaient à 10h moins le quart en train de déjeuner sous un arbre au soleil, à Gex. Et ils voulaient vraiment remercier toute l'église et ils sont conscients que rien n'aurait été possible sans la participation de chacun et de tout le monde. Donc, ils remercient beaucoup, beaucoup chacun. Et je veux dire aussi que leur famille a été surprise. Surprise de voir qu'on pouvait simplement vivre ensemble un moment super comme ça, sans aucune appréhension, et que tout se passe bien. Et vraiment, tout le monde remerciait beaucoup pour cette journée qui a été possible hier. C'est vrai que le temps était pourri. Mais on a passé là une super après-midi, c'était chouette. Merci à chacun en tout cas. Et puis juste profiter pour dire qu'il y a eu un petit pépin quand même hier après-midi, je ne sais même pas si tu es au courant. Nancy est tombée hier et s'est cognée, elle est tombée en arrière et elle s'est cognée la nuque assez fortement sur un des bancs qui est en bas, vous savez, qui font tout le tour de la pièce là. Donc ce matin, elle va à l'hôpital faire un contrôle quand même, parce qu'elle a dû s'arrêter de suite, se coucher, et voilà. Donc on veut aussi penser pour elle. Elle l'est normalement ce matin, elle allait, mais elle veut aller contrôler, parce qu'elle avait une petite boule là, au niveau des cervicales, et c'était un petit peu embêtant. Voilà, donc elle allait contrôler ce matin à l'hôpital, ça. On peut penser aussi à elle. Voilà, vraiment l'accident bête. Hein. Oui, alors vous avez vu qu'il y avait des fleurs au fond, c'est marqué « Servez-vous ». Alors, « Servez-vous ».
Concernant le programme de la semaine, on vous invite à se retrouver mardi soir pour un temps de prière ensemble. C'est encore la période estivale, mais c'est pas forcément le moment d'arrêter de se retrouver pour prier en tout cas. Dimanche prochain, on a le culte et c'est le dernier dimanche avant le départ de Brian et Hélène dans le midi. Donc on veut continuer de penser à vous, Brian et Hélène. On vous aime beaucoup, on vous apprécie, on pense à vous, on sait que vous vivez des moments pas faciles, mais on vous a dans notre cœur et dans nos prières. Le dimanche, ça là c'est un petit peu plus loin, hein, le dimanche 18 septembre, on aura un culte de baptême qui sera suivi d'un apéritif dînatoire. Alors non seulement il faut réserver ce dimanche-là pour partager la joie de ces baptêmes, mais il faut réserver aussi quelques temps après le culte de baptême qu'on partagera ensemble. J'en profite aussi pour vous dire, donc, dans deux semaines, on aura le thé-café le matin. Et il y a encore personne qui est inscrit pour le préparer. Alors voilà, si vous avez à cœur de partager cela, vous pouvez encore vous inscrire. Et puis dimanche prochain, il y aura une nouvelle liste où vous pourrez vous inscrire pour quelques mois encore. Continuons de penser à Loulou. On continue de penser encore aussi à Didier qui est parmi nous ce matin. Continuons aussi de penser et de prier pour Roland. Donc Roland a rendez-vous mardi chez son cardiologue après son retour de vacances du cardiologue. Voilà, continuons de penser puisque la raison de son mal-être n'est toujours pas connue. Plein d'hypothèses ont été éliminées avec les examens qui ont été faits avant les vacances. Mais il y a de nouveaux examens qui seront faits, enfin ils cherchent encore. Continuons de penser aussi à Anne-Lise. Anne-Lise est rentrée à l'hôpital suite à ses blessures qui ne se refermaient pas. Elle est rentrée pour une dizaine de jours, il y a maintenant 2 semaines. Et puis elle est encore à l'hôpital, probablement pour la semaine prochaine. Donc voilà. Continuons de penser à elle. Guylaine a été opérée jeudi matin. Elle est rentrée déjà vendredi. Elle se repose en attendant les résultats. Mais Guylaine a plein de problèmes de santé. Donc elle a déjà un rendez-vous demain qui était déjà planifié avant pour d'autres examens encore. Donc voilà, continuons à penser à Guylaine, à Jacques aussi. Je suis passé vers eux hier en fin de journée. Guylaine est faible, mais elle se lève quand même. Voilà. Ils ont besoin qu'on pense à eux, même si on ne les voit pas beaucoup. Cette semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a encore de la persécution. On vous invite à prier pour la Turquie. Voilà. Numéro 45. Tchouk. Sinon, je vous invite à vous lever. Je partage avec vous 2 versets dans Hébreux 10. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.